Gloire à Dieu. Ouf. Il était volumineux celui de gloire à Dieu. Heureux d'être là cet après-midi. Nous voulons chanter, c'est vrai, Alléluia, et rendre toute la gloire à Dieu. C'est ce que veut dire Alléluia. Hein. C'est pour ça que nous le chantons. Et la parole de Dieu nous rappelle que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et cet après-midi encore, cet après-midi, nous voulons porter un message et simplement exprimer une bonne nouvelle qui est pour la gloire de Dieu. Cette bonne nouvelle que Dieu vous aime. Amen. J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, verset 36, une lecture qui sera assez courte. Luc chapitre 5, verset 36. Jésus leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Amen. J'aimerais vous faire une confidence. Pendant longtemps, cette parole m'a été très obscure. Je ne comprenais pas trop ce que le Seigneur voulait dire au travers de cette parabole, au travers de cette histoire. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne comprenais pas trop véritablement où le Seigneur voulait nous amener à réfléchir. Et le Seigneur, voilà, j'aimerais qu'il puisse nous apporter encore tout son éclairage cet après-midi. Et Jésus avait l'habitude de parler, d'enseigner des vérités spirituelles au travers d'exemples de la vie quotidienne, parce que justement, ces mystères, comme nous dit la parole de Dieu, étaient obscurs et ils ne comprenaient pas. Alors Jésus va utiliser voilà, des paraboles, des histoires, des comparaisons de la vie quotidienne pour pouvoir faire un parallèle et leur permettre de comprendre les réalités spirituelles de Dieu. Et il y a ici une parabole où il nous est donné deux paraboles en une seule, celle d'un habit neuf. Dans les autres récits qui sont donnés dans l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Marc, ce sont un drap neuf. Et puis, il y a également ces outres neuves, dans lesquelles doit être mis le vin nouveau. Le contexte, avant de m'arrêter sur cette parabole, j'aimerais rappeler juste le contexte. Le contexte, il est assez simple. On est à peu près au milieu du ministère de Jésus. Vous savez que Jésus a commencé son ministère sur Terre à l'âge de 30 ans environ. Et pendant 3 ans et demi exactement, il est resté avec ses disciples, allant de lieu en lieu, apportant la bonne nouvelle et guérissant des malades. Et là, on est à peu près à la moitié de son ministère. Il a presque 32 ans. Et on voit juste avant que Jésus a appelé ses derniers disciples, notamment Lévi ou Matthieu. Et suite à cet appel, Jésus est interrogé par des hommes religieux afin de donner une explication pourquoi il mangeait avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Lui qui se dit être le Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il mangeait avec des gens qui, pour les religieux, n'étaient pas fréquentables ? Et Jésus donnera cette simple réponse : ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors oui, les gens de mauvaise vie sont des pécheurs. Et dans cette parabole, Jésus veut simplement amener les hommes religieux, ceux qui se croient justes, à considérer le fait que eux aussi, ils sont pécheurs. Que eux aussi, ils ont besoin de se repentir. Que eux aussi, ils ont besoin de changer de vie. Et que cela n'est pas réservé seulement aux gens de mauvaise vie ou aux publicains, à ceux qui collectaient les taxes et les impôts, mais que tout homme, que toute femme, que toute personne a besoin de parvenir à la repentance. Et Pierre, dans une de ses lettres, il nous dira que Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire dans son retour. On annonce que Jésus va revenir, mais ce n'est pas qu'il tarde dans son retour, mais c'est qu'il use de patience. Dimanche dernier, le matin, a priori, il a été question de la patience ici à Gap. Mais il use de patience, dans quel but ? Afin que tous les hommes parviennent à la repentance. Et la Bible nous rappelle qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est pour cela que ces hommes aussi, ceux qui se croient justes, ont besoin de parvenir à la repentance. Ils se croient justes, mais ils ne le sont pas. On a cette même pensée dans une autre parabole, dans une autre histoire que Jésus donnera, qu'on a effleuré quelque peu hier à Barcelonnette lors de la fête de l'amitié. C'est dans la parabole de la brebis perdue. Jésus dira que le berger, lorsqu'il aura trouvé cette brebis perdue, ou plutôt pour la retrouver, il va laisser le reste de son troupeau, les 99 brebis, pour aller chercher sa brebis perdue. Et quand il l'aura retrouvée, il va la ramener à la maison et lui dit qu'il va se réjouir avec ses amis. Et il va y avoir cette parole. De même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pensez-vous qu'il y en a qui n'ont pas besoin de repentance ? Ça serait contradictoire. C'est la même pensée. C'est au final, il parle de ceux qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Il parle de ceux qui pensent être justes. On n'a rien commis de grave, on n'a pas commis d'infraction majeure, on n'a pas commis de choses qui sont très graves dans notre vie, dans notre jeunesse. Mais cela ne fait pas de nous forcément quelqu'un de juste. Paul rappelle aux Romains, chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si peut-être vous le pensiez, mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas juste, mais que vous êtes des pécheurs. Je suis un pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de la repentance. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et ces hommes également avaient besoin de rencontrer Jésus et de connaître le salut en Jésus, de connaître la vie que Jésus voulait donner. La repentance, c'est cette prise de conscience, justement, de notre nature pécheresse. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. La Bible nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et que c'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs que nous prenons conscience de notre état, de notre nature, et que nous sommes pécheurs. Et que le péché, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le cadeau du Seigneur encore pour chacun de nous cet après-midi, c'est la vie. La vie éternelle. Même si nous n'avons pas la capacité de racheter nos âmes, le Seigneur Jésus, lui, il l'a fait une fois pour toutes à la croix. Et si nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus, si nous acceptons de croire en l'œuvre rédemptrice de Jésus, alors oui, cet après-midi, vous pouvez avoir la vie et la vie éternelle. Pierre, après la Pentecôte, dira dans le livre des Actes des Apôtres, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Parce que oui, la repentance, c'est important, cette prise de conscience est importante, mais cette prise de conscience doit nous amener à une étape supérieure, doit nous amener à quelque chose de différent, doit nous amener à une résolution qui nous est propre, c'est-à-dire la conversion. Si la repentance est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, la conversion doit venir de nous-mêmes. Parce que le Seigneur lui-même ne nous obligera pas à changer de vie. Et c'est ce que veut dire la conversion. C'est changer de vie, c'est faire demi-tour, c'est tourner le dos à ce qui était notre vie passée pour nous engager dans une vie nouvelle. Et si nous faisons cet effort, si nous prenons cette résolution ferme dans nos cœurs, Dieu lui veut mettre en nous une vie nouvelle. Il veut changer nos vies. Dieu nous destine à vivre un temps de rafraîchissement pour nos cœurs. Dieu vous destine à connaître un renouvellement, une régénération intérieure. Dieu vous destine à connaître et à expérimenter ces bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Parce que Dieu veut mettre en vous une vie nouvelle. Dieu veut placer en vos cœurs, en votre âme, quelque chose de nouveau. On sait ce que Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens lorsqu'il dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On en a parlé il n'y a pas très longtemps lors d'un culte quand il était question de laisser au passé le passé. Mais de la même manière, cet après-midi, le Seigneur veut nous encourager à ne pas considérer ce qui est passé, mais à considérer l'avenir que Dieu a prévu pour nos vies. Et cet avenir, c'est un avenir de paix, c'est un avenir d'espoir, c'est un avenir dans lequel nous pouvons avoir de l'assurance. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de vie. Mais un projet sans Dieu, c'est un projet sans vie. Il a donc été question d'habits neufs, ou de draps neufs dans les autres paraboles de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Marc. Nous l'avons lu, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Dans les autres récits, il est question du fait qu'en mettant une pièce neuve sur un habit ancien, nous prenons le risque de créer une déchirure plus grande. On va y revenir. Le vieil habit, il est déchiré, troué. Et le mieux n'est pas de déchirer un habit neuf pour récupérer un morceau et le coudre ou le coller sur le vieil habit, parce que peut-être on est attaché au vieux habit. Est-ce que vous êtes attaché au vieux habit? Ça, c'est mon t-shirt. Ça, c'est mon short fétiche. Ça, c'est ma tenue que je préfère. C'est la tenue que j'aime mettre pour venir à l'église. Au-delà de ce que nous aimons, le Seigneur veut placer en nous et veut nous revêtir d'un habit nouveau. Et nous prenons une mauvaise décision de vouloir nous entêter à rapiécer continuellement le vieil habit de notre vieille nature. Pour trois raisons. Parce que cela gâcherait l'habit neuf, duquel nous prenons un morceau nouveau. Parce que cela également, à terme, gâcherait le vieil habit, puisque lorsqu'on colle ou qu'on coud une... Je ne suis pas couturier, hein. Mais il me semble que lorsqu'on coud une pièce neuve sur un vieil habit, la pièce neuve, à un moment donné, va rétrécir par le temps, le lavage, et il va y avoir une pression qui va être apportée sur les coutures. Et si au début, on voulait juste dissimuler un petit trou, la déchirure qui va être engendrée de cette pièce neuve qui va se découdre du vieil habit, la déchirure va être plus importante. Et puis, le morceau neuf, nous l'avons lu, ne serait pas assorti au vieil habit. Lorsqu'on s'habille, on aime être coordonné. Quand on est daltonien, ce n'est pas évident. Alors on est obligé de demander de l'aide à quelqu'un. Mais sinon, on aime être coordonné. Alors, il paraît que maintenant, tout se met avec tout. Mais là, la pièce ancienne n'était pas coordonnée avec le vieil habit. Vous avez remarqué combien les enfants usent les pantalons au niveau des genoux? Oh oui, ah, c'est l'expérience qui parle. Hein. À force de jouer, de se traîner par terre, les genoux s'usent plus rapidement que le reste. Et si au début, ce n'est que la couleur qui part, on voit apparaître assez rapidement un petit trou au niveau des genoux. Et je ne sais pas si ça se fait encore, en tout cas, je ne le fais pas à mes enfants, mais je me rappelle que quand j'étais plus petit, et quand j'étais gamin, je ne me rappelle pas de ça pour moi, mais je me rappelle que j'avais des copains de classe à qui les parents plaçaient des pièces sur les genoux. Thibaut, tu peux mettre le PowerPoint? J'ai trouvé ça, c'est le flashback 20 ans en arrière. Hein. Tu fais juste F5 sur le PowerPoint. Ça va arriver. Hein. Vous vous rappelez de ça? Moi, je ne me rappelle pas avoir ça, hein, parce que j'aurais eu honte un peu quand même. Mais bon, moi, je me rappelle, j'avais des copains, ils avaient un ballon de foot ou des trucs comme ça sur les genoux. Et le but était de pouvoir permettre au vieil habit d'aller jusqu'au bout. Hein. Il faut l'user jusqu'au bout. Et puis, quand il n'y a plus de place pour mettre des étiquettes, eh ben, on le changera. Hein. Mais cette pensée, voilà, cette pièce-là qu'on coud sur un vieil habit, c'est cette même pensée que Jésus est en train de développer ici dans cette parabole. Et au final, Jésus exprime cette vérité, c'est qu'à vouloir mettre une pièce neuve sur un vieil habit, ben, c'est pas sorti, quoi. C'est pas très coordonné. Hein. Et dans les autres récits, ça amène même à plus long terme à une plus grande déchirure. C'est au final l'image de notre vie, l'image de notre âme, où parfois nous nous entêtons à vouloir garder notre vieille nature, à vouloir garder, allez, je le dis, nos péchés mignons, les petites choses que l'on garde pour nous. Et puis on se dit, bon, c'est bon, personne ne le sait, mais Dieu le sait. Mes amis, je crois que si on veut voir Dieu agir dans nos vies, si on veut avoir un nouveau départ dans nos vies, il faut accepter de mettre nos vieux habits de côté, de mettre nos vieux vêtements, notre vieille nature de côté, pour revêtir un habit nouveau, celui que le Seigneur est venu nous apporter. C'est le réformateur Martin Luther, je crois, qui a dit que lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême, on y va également pour... C'est le symbole, bien sûr, de la mort et de la résurrection. Et Martin Luther disait qu'il y a le but de vouloir noyer notre vieille nature, mais bougre, elle sait bien nager. Et elle reste parfois bien trop attachée. Et parfois, on est tenté de garder certaines choses. Et on s'accommode de juste vouloir vivre seulement une modification, un rapiècement, un rajout qui viendrait améliorer notre vie. Mais l'œuvre que le Seigneur veut faire dans nos vies, ce n'est pas seulement une modification, ce n'est pas seulement un ravalement, ce n'est pas seulement un lustrage ou un ajout superficiel, c'est un changement complet que le Seigneur veut faire. C'est un remplacement entier de notre vie que le Seigneur veut accomplir en nous. Trop souvent, nous rencontrons des personnes qui, oui, viennent à l'Église, qui disent croire en Dieu, qui expriment leur volonté de confier leur vie dans les mains du Seigneur, mais au final, ne viennent que pour ajouter un peu de renouveau dans leur ancienne vie. Et que pour déchirer un bout de vêtement neuf, voilà, ils viennent seulement pour coller et coudre quelque chose de neuf, de nouveau. J'aimerais vous dire que Jésus, la grâce de Dieu, le salut, la vie éternelle, pour qu'il soit vécu pleinement et éternellement, il doit s'accepter dans leur totalité. Jésus doit être accepté dans sa totalité. Jésus est venu pour être notre sauveur, mais il est également venu pour être notre Seigneur. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour faire ce que nous étions incapables de faire, nous sauver. Nous sauver de la mort, qui est le résultat du péché. Nous sommes pécheurs, nous l'avons dit. Et nous avons rappelé que le salaire du péché, c'était la mort. Et il nous est impossible de racheter nos vies. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui lui est pur, qui lui est saint, qui lui est innocent, qui lui est sans péché, sans faute, a accepté d'être rendu péché pour nous et de subir la condamnation qui reposait sur nos vies, afin que chacun de nous et que vous puissiez cet après-midi connaître le salut. Mais s'il est venu pour être le Sauveur, il est également venu pour être notre Seigneur, pour être celui qui siège sur le trône de notre cœur, pour être celui qui vient pour régner dans notre vie. Et ce règne n'est pas un règne totalitaire, mais il est un règne d'amour. Alléluia. Il est ce règne de compassion, ce règne d'amour, de ce bien-aimé qui est venu et qui nous a tellement aimés, justement, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il est ce Seigneur qui veut nous élever et pas nous écraser. Il est ce Seigneur qui ne veut pas nous dépouiller, mais qui veut nous revêtir d'un habit nouveau. Il n'est pas seulement question de prendre qu'une partie de la grâce cet après-midi. Il n'est pas seulement question de venir prendre une bénédiction et repartir. Le message de l'Évangile, c'est de tout prendre. C'est de prendre la bonne nouvelle dans sa globalité. Et si oui, Jésus est capable de guérir, Jésus veut avant tout vous sauver. Et il veut régner dans votre vie. Quand vous prenez l'exemple des 10 lépreux, 9 sur 10 sont venus que pour rapiécer leur vie, sont venus que pour prendre une partie du Seigneur en obtenant la guérison. Et un seul reviendra à Jésus. Mais un seul sera sauvé, celui qui sera venu se prosterner aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dira, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on lit ce verset, bien sûr, premièrement, cela nous fait penser, et cela nous parle d'un appel à un sacrifice. Un sacrifice, et suivre Jésus, c'est également savoir sacrifier, peut-être, les choses passées. Mais je crois également que s'il y a cette notion de sacrifice dans le fait de venir à Jésus, en même temps, ce sacrifice nous apporte la joie. Parce que renoncer à soi-même, je crois que c'est aussi savoir et accepter de renoncer et délaisser nos limitations humaines, nos faiblesses, nos maladies, nos douleurs, nos souffrances. C'est renoncer et délaisser nos frustrations, peut-être nos désillusions. Jésus dira qu'il faut également se charger de sa croix et je crois que c'est aussi nous revêtir de l'œuvre de la croix de Jésus à Golgotha. Il n'est pas question ici de se charger inutilement d'un fardeau trop lourd à porter. Mais c'est de venir à Jésus. C'est encore de considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Et que pour vivre libéré, délivré, pour obtenir la vie, il faut demeurer à l'ombre de la croix, là où Jésus a tout accompli. Là où dans ses meurtrissures, nous obtenons et nous avons la guérison. Là où au travers de sa mort, nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Alors oui, nous pouvons suivre Jésus. Suivre Jésus dans sa résurrection, dans sa vie. Suivre Jésus dans cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. L'apôtre Paul nous invite également au travers de ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ici, le mot « revêtir », le mot littéral, nous appelle à s'enfoncer dans les vêtements, à nous laisser couvrir par le Seigneur, recouvrir par la personne du Seigneur Jésus. Lorsque vos enfants peut-être l'ont fait dans les magasins de se cacher dans les vêtements, vous ne les voyez plus, mais vous ne voyez que les vêtements. Ils se sont couverts de vêtements. Et au final, le Seigneur nous appelle à nous cacher en lui et à le laisser nous couvrir. Et l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix de Golgotha, c'est également ce recouvrement de nos péchés. C'est également ce recouvrement de cette vie ancienne pour nous revêtir d'un habit nouveau. Lorsque le fils perdu revient à la maison du père, le père, lorsqu'il voit son fils venir à lui, il ne dit pas apporter du fil et une aiguille et un morceau de tissu neuf. Il ne dit pas raccommodons son vêtement. Lui qui revient en piteux état, lui qui revient sale, avec des vêtements certainement dans un état désuet. Le père dira, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Si nous venons à Jésus cet après-midi, le Père voudra nous revêtir de Jésus immédiatement, nous revêtir de la sainteté du Seigneur. Et puis, il est question ensuite des outres neuves. Et si l'habit nous parlait plus de l'aspect extérieur, les outres nous parlent en plus de l'aspect intérieur. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand. Et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tu peux mettre le second slide, s'il te plaît ? Voilà, c'est une sorte de gourde. Hein. Bon, c'est certainement un modèle récent, hein. Ce n'était pas à l'époque de Jésus, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est une espèce de gourde qui est fabriquée à base de cuir, de peau de bête, et qui permet de conserver du vin, du lait, de l'eau, etc. Et là, il est question de vin. Et quand ces outres sont fabriquées, elles sont placées dans de l'eau pour que le cuir puisse garder, conserver sa flexibilité, sa souplesse. Ensuite, on les remplit de vin. Et avec la fermentation, le vin nouveau vient fermenter, vient faire gonfler cette outre. Et après, quand elle est vidée, l'outre est sèche. Et il ne faut plus le remplir de vin nouveau, sinon à nouveau, la fermentation va appliquer une pression et va faire éclater, exploser la vieille outre. C'est ce que dit Jésus. Si on refuse d'être changé, d'être transformé par le Seigneur ne pourra pas venir en nous. Le Seigneur ne pourra pas opérer toute son œuvre en nous. Le Seigneur sera limité dans son action en nous. Je crois qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous besoin d'une intervention de Dieu. Que ce soit pour notre corps et que ce soit surtout pour notre âme, on a besoin de voir Dieu agir dans notre vie. Mais pour le voir agir dans notre vie, quand vous appelez un réparateur de lave-linge, si vous l'appelez seulement et dites « j'ai un problème avec mon lave-linge », s'il ne vient pas à la maison, ça va être compliqué de le réparer. Ça va être compliqué même de le changer s'il vient avec un nouvel appareil. On peut appeler Jésus, mais si on lui ferme la porte, si on ne l'accueille pas dans les bonnes conditions, il ne pourra pas se manifester comme lui veut faire. Il ne pourra pas opérer le miracle. Il ne pourra pas guérir. Il ne pourra pas sauver. Il ne pourra pas nous transformer, nous délivrer. Parce que son action dépend de notre bonne volonté et notre désir de le voir agir. Dépend de notre désir de changer de vie. De cette conversion qui nous incombe. La religion, la pratique d'une religion endurcie, c'est ce que Jésus est en train de dire à ces hommes religieux. Et ils sont comme de vieilles outres, qui sont devenus incapables de recevoir le Seigneur parce qu'ils sont endurcis. La parole de Dieu nous rappelle que Dieu seul est celui qui peut transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Peut-être jusqu'à présent, vous étiez imperméable à l'amour du Seigneur, imperméable à la grâce de Dieu, endurci, peut-être, humainement, on pourrait dire c'est légitime vu les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Mais malgré tout, pour pouvoir voir le Seigneur agir en vous, il faut que vous puissiez accepter de le laisser changer cet endurcissement en une flexibilité nouvelle, en une sensibilité nouvelle, avec ce cœur de chair que le Seigneur veut nous donner. Pour que le contenu puisse prendre tout son effet, il faut que le contenant puisse l'accueillir pleinement Lorsque j'étais en voyage professionnel au Sénégal, il a été question du Sénégal, je crois, ce matin. J'étais en voyage professionnel au Sénégal et on travaillait sur un dossier commercial toute une nuit. Et mes collègues sénégalais sont allés chercher une spécialité locale, le dibi. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et ils sont revenus avec des canettes de soda que l'on connaît bien ici. Et ce qui m'a paru étrange, c'est qu'en ouvrant la canette, ça n'a pas fait pchit. Parce que j'ai compris rapidement, en goûtant, que c'était de vieilles canettes réutilisées. Et que l'intérieur n'avait rien à voir, mais vraiment absolument rien, avec ce qui était présenté. Je crois que pour que le Seigneur puisse apporter tout son effet dans nos vies, on doit d'abord le laisser transformer nos vies, et ensuite il pourra nous remplir. Ensuite il pourra remplir nos vies de ses bénédictions. Puis je termine. Cette parabole termine par cette phrase, ce verset. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. On dit souvent, hein. Ah bon, c'était quand même mieux, hein. C'est vrai que l'affinage du vin est important pour qu'il soit bon, et certains vins, plus ils vieillissent, mieux c'est, mais vous savez, quand ça vieillit trop, on ne le boit plus, hein. Il ne faut plus le boire, hein. Ça devient de la collection. Ça prend de la valeur, c'est vrai, humainement, mais ça devient de la collection, on ne peut plus le consommer. Vouloir rester sur des traditions anciennes comme ces hommes religieux, plutôt que de vivre une expérience nouvelle, ne nous aidera pas à devenir meilleurs. Et dans ce verset, Jésus ne dit pas qu'il faut conserver le vieux vin, il exprime simplement ce que l'homme dit, la pensée de l'homme, le raisonnement humain. Et Jésus vient pour bouleverser et changer les raisonnements humains. Et cela, on le retrouve de la même manière lors du premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, lorsqu'il va transformer l'eau en vin. Et on pourrait se dire, c'était pas un miracle très spirituel quand même, change l'eau en vin. Ouais, mais dans ce miracle, le Seigneur Jésus est en train de faire réaliser à l'ordonnateur du repas qu'il est venu apporter quelque chose de nouveau et que ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est une œuvre nouvelle. Et que le meilleur, il n'est pas derrière, mais il est devant. Que le meilleur, il n'est pas dans les choses du passé, mais que le meilleur, il est en Jésus. Jésus à Cana est venu avec un millésime. Et ce millésime, il veut nous en faire profiter encore aujourd'hui. Ce millésime, il a coulé sur une croix il y a plus de 2000 ans. Ce millésime, il est d'une valeur inestimable. Parce qu'il a payé la dette qui était la nôtre pour racheter nos vies. Jésus dira, avant de repartir vers le Père, d'être glorifié après être ressuscité, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Le meilleur, il est là-haut. Le meilleur, il est dans cette place que Jésus est en train de vous préparer. Le meilleur, il est au ciel. Mais pour pouvoir le connaître et l'expérimenter, il faut accepter de changer. Pas par nous-mêmes, et de laisser le Seigneur nous changer, de faire de nous des habits nouveaux, de nous revêtir d'un habit nouveau, mais de faire de nous des outres nouvelles pour que nous puissions être remplis de ce vin nouveau que Jésus veut déposer en chacune de nos vies. Amen. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux un moment. Que nous puissions encore considérer ce que Jésus est venu faire à la croix. Jésus n'est pas venu pour se livrer en spectacle, mais il est venu pour livrer en spectacle les dominations. Il est venu pas seulement pour que son corps soit cloué à la croix, mais pour que nos vieilles natures soient clouées sur cette croix. Que nous puissions mourir à nous-mêmes pour instantanément ressusciter en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour vous. Jésus a tout payé. Il a donné le meilleur. Ce que personne ne pourra donner, lui, il l'a donné. Il l'a fait parce qu'il vous aime. Et son désir cet après-midi, au-delà de toute considération ancienne, au-delà de toute tradition, au-delà de toute éducation reçue, le Seigneur veut parler à votre cœur encore cet après-midi et vous appeler à considérer qu'il veut faire un changement dans votre vie, qu'il veut vous transformer entièrement et faire de vous de nouvelles créatures. Et pendant que nous avons les yeux fermés, je veux croire que le Seigneur, encore cet après-midi, veut sauver ne serait-ce qu'une personne. Il veut encore voir la résolution, ne serait-ce que d'une personne, à dire « Oui Seigneur, viens changer ma vie. Oui Seigneur, remplis-moi de toi. Oui Seigneur, revêt-moi de toi. » Pendant que nous avons les yeux fermés, s'il y a une personne qui désire simplement manifester son désir de voir le Seigneur changer sa vie. Pas seulement question d'avoir qu'une guérison, qu'une bénédiction, mais de voir le Seigneur vivre entièrement en vous. S'il y a ce désir dans votre cœur, simplement, j'aimerais que vous puissiez lever votre main là où vous êtes à votre place. Et le Seigneur vous voit et amen, tu peux baisser la main. Le Seigneur vous voit et il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pour un homme, une femme qui a pris conscience de sa nature pécheresse. Et en levant la main, le ciel est dans la joie cet après-midi. Alors si vous voulez rentrer dans cette joie du ciel, simplement levez votre main. Puis après quoi nous prierons pour vous. Oui, vous pouvez baisser la main. Dieu connaît votre vie. Et Dieu sait comment vous changer. Dieu sait quoi apporter. Dieu sait ce qu'il faut réformer. Seigneur Jésus, je te prie pour ces amis qui ont levé la main. Afin que, Seigneur, dans ce désir qu'il manifeste devant toi, de vivre une transformation dans leur vie, je te prie, Seigneur, de leur permettre maintenant d'expérimenter cette vie nouvelle que tu veux de leur donner. Seigneur, tu vois leur désir de changer, de te laisser les changer. Seigneur, honore leur foi. Réponds à leurs prières, change-les, transforme-les, guéris-les, délivre-les, Seigneur, et glorifie-toi dans leur vie, Jésus.